C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
Les gens continuent à m'écrire pour me dire comment ils vont gérer les passeports vaccinaux pour les fêtes. On sait que Québec a annoncé aujourd'hui que les rassemblements jusqu'à 20 personnes à partir du 23 décembre vont être permis à condition que les 20 personnes soient vaccinées. Et là, il y a des gens qui m'écrivent, écoute, aucune discrimination chez moi, j'invite qui je veux, peu importe le statut vaccinal. Il y a des gens aussi qui me disent, ben ça va être un peu difficile de contrôler ça. C'est un peu gênant de demander aux gens, montre-moi ton passeport vaccinal. Bon, on va parler des annonces d'aujourd'hui avec Dr Caroline Couache, microbiologiste, infectiologue et médecin responsable de la prévention et du contrôle des infections au CHU Sainte-Justine. Dr Couache, bonjour.
Bonjour.
Écoutez, 1234 nouveaux cas aujourd'hui, 5 nouveaux décès. On sait là que depuis un mois, 5-6 semaines, les cas ont vraiment augmenté. Avez-vous été surprise d'entendre les autorités aujourd'hui annoncer que les rassemblements familiaux de 20 personnes vont être permis?
Je pense que ce que le gouvernement essaie de faire, c'est de permettre aux gens de se voir à Noël, parce que Noël dernier, ça a été absolument inexistant. Mmh. Ça fait quand même presque 2 ans qu'on est là-dedans. Puis, à un certain point, c'est dans les 1200 cas, il y a quand même à peu près la moitié là, qui sont chez des jeunes enfants qui, en théorie, ne devraient pas avoir trop de complications. Puis, on espère que dans ces jeunes enfants-là, il y en a plusieurs qui vont avoir été chercher leur première dose de vaccin et donc qui devraient, par le fait même, diminuer un peu la transmission communautaire. On se rappelle aussi que la plus grande majorité des Québécois de 18 ans et plus, en fait de 12 ans et plus, est convenablement vacciné et donc encore une fois est protégé adéquatement contre les hospitalisations et les décès. Là, 32 semaines après la deuxième dose, on est encore au-delà de 90% de protection contre les hospitalisations. Donc ça marche ce vaccin-là.
Donc pour vous, ce qui a été annoncé aujourd'hui, même si c'est pas sans risque, ben on peut dire que quoi, le risque en vaut la chandelle?
Je pense que oui. Je pense que les gens ont absolument besoin de se voir, de savoir que les gens sont vaccinés. Puis là, j'entendais ce que vous disiez plus tôt. Là, on ne demande pas aux gens de demander le passeport vaccinal, mais habituellement, dans nos familles, on sait qui est-ce qui est vacciné puis qui est-ce qui l'est pas. Là. On s'en parle depuis je sais pas combien de mois. Si quelqu'un n'est pas vacciné dans la famille, c'est une question de gestion de risque. Là, après, ça dépend s'il y a des immunocompromis, des personnes plus âgées, plus fragiles. Puis qu'est-ce que cette personne non vaccinée là fait aussi de ses journées?
Docteur Couache, vous me dites ça, puis au même moment dans ma messagerie, là, quelqu'un m'écrit et me dit « Un an après le début de la vaccination, tu le sais qui dans la famille est vacciné, qui ne l'est pas. » C'est vrai que ceux qui ne sont pas vaccinés, ils font pas beaucoup de secrets là-dessus publiquement et sur les réseaux sociaux.
Mais il faut dire quand même que ceux qui sont pas vaccinés ne sont pas nécessairement anti-vaccins. Il y en a qui ont eu des craintes, qui attendaient de voir un médecin pour en parler. Je pense qu'il faut pas mettre tout le monde dans le même panier, mais peu importe. Là, ces gens-là, habituellement, en ont discuté avec leur entourage parce qu'ils leur ont dit, écoutez, j'irai peut-être pas vous voir, je suis pas vacciné, je suis mal à l'aise, je veux pas mettre papa, maman à risque. Donc, ce sont des choses qui se savent.
OK. J'ai vu que la troisième dose est annoncée pour les 60 ans et plus, là, mais c'est juste à partir de janvier. Écoutez, j'ai vu des scientifiques là, qui demande ça depuis quelque temps pour les 50 ans et plus. Est-ce qu'il y a un débat dans le monde scientifique à savoir si c'est mieux d'y aller avec les 60 plus plutôt que les 50 plus?
Ben, je vous dirais que ça a commencé avec les Américains qui ont décidé que ça sera 50 ans. Puis finalement, ils le donnent aux 18 ans et plus. Au niveau canadien, ils y ont été aussi avec les 50 ans et plus parce que c'était dans ce groupe d'âge-là qu'on commençait à avoir une recrudescence des infections, pas des hospitalisations, mais des infections chez les vaccinés. Puis au Québec, on est allé avec on suit en fait l'ordonnancement qu'on avait utilisé au départ, là. C'est-à-dire qu'on a fait déjà les 70 ans et plus, CHSLD, RPA. Le groupe suivant, c'est les 60-69, puis ensuite, c'est les personnes avec maladies chroniques. Honnêtement, quand on regarde nos données, on est encore très, très bien protégés contre les hospitalisations. C'est vrai qu'on voit une petite augmentation du risque d'infection chez les vaccinés, mais habituellement, cette infection-là est peu sévère. Mais je pense qu'avec l'arrivée du variant Omicron, c'est correct d'être proactif et de dire, on n'attendra pas de dire, oups, il est trop tard, on aurait dû vacciner avant. Donc, on se dit, 6 mois après la deuxième dose, on s'installe, puis on vaccine. De toute façon, même si on avait dit 50 ans et plus aujourd'hui, compte tenu de la capacité du réseau à vacciner, les 50 ans et plus n'auraient pas été vaccinés avant janvier, fin janvier. Donc, c'est possible qu'en janvier, une fois que tout va être installé puis que ça va avoir bien roulé, que ça soit ouvert aux plus jeunes aussi. Il n'y a pas de... Il n'y a personne qui a dit on ne vaccine pas, mais à un certain moment, il faut prioriser pour commencer par protéger ceux qui sont à plus haut risque de complications, puis protéger encore une fois le milieu de la santé, parce que présentement, ce qu'on voit, c'est que nos travailleurs de la santé recommencent à attraper passer les infections à partir parce que leurs enfants sont malades, pas très malades, mais ils le ramènent à la maison. Puis à ce moment-là, on est obligé de retirer nos travailleurs de la santé, ça fait qu'on est encore plus en pénurie de personnel. Puis ça, on peut pas toffer comme ça très, très longtemps.
Il y a quelqu'un qui me demande une question très précise, là, mais c'est je trouve que c'est intéressant. Là, on vous demande votre avis sur la vaccination des femmes enceintes pour la troisième dose.
Ouais, ben la recommandation a été de mettre les femmes enceintes avec les personnes les plus vulnérables parce que ce qu'on veut c'est vraiment les protéger contre une infection. En fait, ce qu'on voit c'est que les infections sont plus sévères chez les femmes enceintes, surtout à la fin de la grossesse. On a eu plusieurs patientes là qui se sont retrouvées aux soins intensifs avec leurs bébés qui sont nés, qui ont attrapé la COVID parce que il y en avait dans la famille et qui ont été aussi passablement malades. Donc on a l'impression à tout le moins dans notre milieu à nous, là, à Sainte-Justine, que les gens qui sont le plus à risque de complications, c'est vraiment les femmes enceintes. Puis, honnêtement, avec les données de la des deux premières doses, il n'y a aucune, il y a pas de risque, là, en termes de perte fœtale, de malformation congénitale. C'est bien toléré. La femme enceinte n'aura pas trois doses pendant sa grossesse. Là, seulement les femmes enceintes ont déjà eu leurs deux premières doses à un moment donné et vont aller chercher cette troisième dose-là pour se protéger, entre autres, contre une infection qui, même si elle pourrait être plus sévère dans leur groupe d'âge, risque quand même de se compliquer quand on est enceinte avec une bedaine qui nous empêche de respirer.
Vous êtes Dr Couache, vous êtes pédiatre, vous êtes au CHU Sainte-Justine, un de nos grands hôpitaux pédiatriques au Québec. Il y a des parents qui avaient des craintes au début de la campagne de vaccination. Les chiffres qui nous venaient des États-Unis étaient rassurants. Maintenant là, que les petits Québécois ont commencé à se faire vacciner, est-ce qu'on a vu des problèmes? Est-ce qu'on a vu des complications là qui seraient intéressantes de noter?
Pas encore. Je vous dirais que le 5-11 ans, on est rendu à peu près 29 % là, des 5-11 ans qui ont reçu leur première dose. On peut quand même se tourner vers les États-Unis où eux ont administré 5 millions de doses. Et là-dessus, il y a pas de signal de problème après la première dose. Ils sont déjà en train d'administrer leur deuxième dose, donc on va savoir assez rapidement aussi comment ça va. Mais honnêtement, c'est un vaccin qui a l'air tout à fait bien toléré chez le 5-11 ans.
OK. Dites-moi, on a parlé du variant Omicron. Quand ça s'est manifesté, il y a à peu près deux semaines, là, il y avait de grandes craintes. Maintenant, on l'a analysé, on a regardé son évolution, etc. Quel jugement vous posez sur Omicron?
Il est encore tôt, mais jusqu'à maintenant, ça n'a pas l'air d'être un variant qui cause davantage de mortalité. Il a l'air, par contre, très contagieux, ce qui fait que si on le laisse rouler, il va remplacer le Delta, là, ce qui est... Est-ce que c'est une mauvaise chose? J'en ai aucune idée. Je pense que ce qu'on voit, c'est que les gens qui ont déjà fait l'infection sont quand même plus à risque de faire une infection breakthrough à Omicron comparativement aux autres variants précédents. C'est probablement la même chose pour nos vaccinés. Mais donc, ce qu'on attend, c'est de voir toutes les études qui sont en train d'être faites in vitro pour voir si l'Omicron réussit à passer outre la protection qui est conférée par les vaccins dans un tube, là, ce qui n'est pas à 100%, qui ne reflète pas à 100% ce qui se passe dans un corps humain, mais ça nous donnera quand même une première idée de la capacité de nos anticorps à neutraliser ce nouveau variant-là.
Deux autres questions du public, Dr Couache. Est-ce qu'on va avoir besoin d'une quatrième dose éventuellement?
Ben, on a l'impression que cette troisième dose-ci, qui est une dose de rappel, on sait en fait qu'elle fait augmenter les anticorps de façon très importante et que ça devrait donc perdurer dans le temps. La quatrième dose va être nécessaire selon la transmission communautaire puis selon les risques de complications si jamais on a un variant différent. Est-ce qu'on va arriver à un moment donné à une vaccination qui va ressembler à la vaccination contre la grippe, c'est-à-dire une fois par année, en particulier pour les personnes les plus à risque de complications puis les travers de la santé? C'est possible. Je pense que moi, dans mon idée, là, c'est probablement plus vers là qu'on s'en va que vers une quatrième dose à tous les six mois, une dose à tous les six mois pour tout le monde. Je pense que cette troisième dose-ci devrait nous aider à passer à travers l'hiver. Puis vraiment, l'hiver, c'est là où ça coince, là, parce qu'on est à l'intérieur. On le sait que nos virus respiratoires se transmettent davantage. Et c'est pour ça que la troisième dose est offerte maintenant. Surtout qu'on arrive à notre 6-7 mois, le post-deuxième dose, avec une diminution de la protection. On le sait, là, on le voit.
Dernière question, vous recommandez quoi aux gens qui vont organiser des moyens parties à 20 personnes maximum en termes de ventilation? Est-ce qu'il faut ouvrir la fenêtre un petit peu, beaucoup ou bien grand?
Ben, c'est toujours mieux d'avoir une bonne ventilation. C'est sûr que s'il fait moins 40, de l'ouvrir très, très grand, c'est plus difficile. Mais si on est capable d'avoir un peu de circulation d'air, ça serait bien. Tu sais, c'est toujours la même question. Là, 20 personnes dans une énorme maison de Westmount, c'est pas pareil que 20 personnes dans un 3,5. Et donc, c'est plutôt la densité de population qu'il faut prendre en compte. Fait que recevez-vous chez la personne qui a la plus grande maison, avec le plus d'espace, où on est capable d'avoir une ventilation, parce que c'est sûr qu'il y a personne qui a de ventilation mécanique dans sa maison, là, à part la hotte de poêle puis les ventilateurs de salle de bain. Il n'y a pas grand-chose d'autre qu'on peut faire fonctionner, mais on peut déjà les faire fonctionner. C'est déjà ça de prix.
Toujours un plaisir. Merci, Dr. Quash.
Merci, au revoir.
Dr. Caroline Quash de l'hôpital Sainte-Justine.
Patrick Lagacé en accéléré.
Notre prochaine invitée, vous la connaissez bien, elle est médecin au CHU Sainte-Justine, professeure spécialiste des urgences pandémiques à l'Université McGill, ancienne présidente de Médecins sans frontières. Elle a notamment combattu le virus Ebola en Afrique de l'Ouest. Il s'agit de Dr. Joanne Liu. Dr. Liu, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Il y a plusieurs pays qui ont fermé leurs frontières avec certains pays d'Afrique, là, comme l'Afrique du Sud, à cause du variant Omicron. Maintenant que la poussière est retombée, est-ce qu'on sait si c'est efficace de faire ça?
C'est une mesure qui est assez théâtrale puis qui rassure, mais qu'au niveau de l'évidence, ça risque encore à être prouvé jusqu'à un certain point. Mais je pense que souvent, ça permet de s'organiser. Donc moi, je peux comprendre que de façon temporaire, pour quelques jours, on fait ça, on s'organise, on met des mesures en place, puis après ça, on continue les choses avec un vrai suivi par ailleurs aux voyageurs.
OK, je veux qu'on parle de vaccination. À chaque fois que vous venez à notre antenne, on parle de vaccination ailleurs dans le monde parce qu'évidemment, on a voulu que le plus de Québécois et de Canadiens se fassent vacciner pour des raisons évidentes. Mais vous l'avez souvent dit, si le reste de la planète n'est pas vacciné, ça nous met tous à risque. Rappelez aux gens pourquoi c'est important de se soucier des autres pays en voie de développement, des pays moins bien nantis que les nôtres. C'est important que ces gens-là soient bien vaccinés et rapidement.
Ben, en fait, le cas de figure, c'est que si on a une région dans le monde qui est très peu vaccinée et que le virus est en transmission communautaire importante, qu'on a dans certains endroits en Afrique, mais aussi au Moyen-Orient, bien, on sait qu'à chaque fois que le virus se transmet, bien, il y a une mutation. Puis à un moment donné, bien, il y a une mutation qui peut échapper, évader à la protection des vaccins qu'on a présentement. Et donc, c'est pour ça que c'est important de freiner la transmission communautaire du virus. Et la seule façon de le faire, et l'outil qu'on a le mieux présentement, ça demeure les vaccins.
Qu'est-ce que le Canada pourrait faire? Qu'est-ce que le petit Canada pourrait faire? Parce qu'on n'est pas un gros joueur sur la scène mondiale.
On n'est pas un gros joueur sur la scène mondiale, mais il demeure que le Canada, assez rapidement, en 2020, a contribué de façon importante à l'effort international. Il a investi 2,5 milliards de dollars canadiens au niveau de l'aide internationale pour combattre la COVID-19, dont 1,3 milliard dans la plateforme qu'on appelle ACTA, qui est l'accélérateur pour créer des outils pour combattre la COVID-19, soit des vaccins, des diagnostics ou des traitements. Donc, on a fait ça, énorme. Et la chose, c'est que aussi, on a beaucoup acheté de vaccins. Et là, avec nos achats, la contribution qu'on a, on a une voix particulière par rapport à cette plateforme-là. Donc, on devrait dire, qu'est-ce que vous avez besoin pour qu'on livre des vaccins? Parce qu'aujourd'hui, COVAX est exposé de livrer 2 milliards de vaccins en 2021. En tout cas, c'était l'ambition initiale. On est à peu près à 500 millions. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Puis nous, le Canada, est-ce qu'on a commandé beaucoup de vaccins? On a à peu près pour 420 millions de commandes confirmées de différents candidats, naturellement. Ben, est-ce que dans certains de ces candidats-là, est-ce qu'on pourrait décider, vu que c'est beaucoup plus que la population, les envoyer directement à des pays qui en ont besoin ou à travers la plateforme COVAX. Donc, c'est ça qu'on pourrait faire. Puis la troisième chose, qui serait la chose encore qui devrait avoir un coût politique le moins grand, c'est de se dire, est-ce qu'on peut libérer le droit à la propriété intellectuelle sur les vaccins, sur les traitements, sur les diagnostics. Et là, là-dessus, ben, le Canada a toujours été frileux, mais c'est quelque chose qui serait relativement facile à faire.
OK. Je veux qu'on parle de logistique, Dr. Liu. On le sait, là, les vaccins qui sont accessibles présentement doivent être conservés à des températures très, très froides. Moi, il y a un microbiologiste infectiologue, là, Dr. Richard Marchand, qui me faisait remarquer il y a quelques semaines que dans plusieurs régions du monde, on n'a pas les capacités logistiques de garder ces vaccins-là froids. Vous le savez, là, vous avez travaillé en Afrique et il y a plusieurs endroits dans le monde où l'électricité est disponible quelques heures par jour. Est-ce que ces vaccins-là sont la clé ou il va falloir un autre type de vaccin qui n'a pas besoin d'être congelé?
Ben, c'est une très bonne question et c'est sûr que c'est une chose de faire une promesse pour des vaccins, c'est une autre chose de porter ces vaccins-là dans un pays, mais en vrai, le vrai challenge, le vrai défi, c'est de prendre le vaccin à partir de l'aéroport puis de l'emmener dans le bras d'un bénéficiaire. Et ça, c'est le plus gros défi parce que on sait que les systèmes de santé n'ont pas la résilience qu'il y a ici. Et on sait qu'on a besoin d'une logistique importante et dans plusieurs endroits, elle fait défaut. Donc, c'est vrai que les vaccins mRNA qui ont besoin d'une chaîne de froid qu'on appelle ultra froide est un challenge supplémentaire. Et c'est pour ça que dans le passé, quand on pense quels sont les virus qu'on a réussi à éliminer dans le passé, il y en a un sur lequel on a été assez un grand succès, c'est la variole des années 70. Et une des raisons pourquoi qu'on a réussi, c'était oui, c'était très, très, très notoire quand on avait la maladie, mais deux, c'est qu'on avait un vaccin qui était thermostable, à température de l'environnement de la pièce. Donc ça avait fait la différence, c'est qu'on pouvait transporter les vaccins n'importe quand, quasiment tout le temps. Donc, est-ce qu'on va avoir besoin d'un nouveau vaccin? Il y a quand même des vaccins qui n'ont pas besoin d'une chaîne de froid aussi importante. Et donc, ce serait ces vaccins-là qu'on pourrait favoriser pour les pays à bas moyen revenu ou que pour eux, c'est un vrai enjeu, la chaîne de froid.
Je recule un petit peu. Vous avez mentionné deux des raisons du succès pour l'éradication de la variole. Là, c'est que, bon, vous l'avez mentionné, le vaccin n'a pas besoin d'être super froid. Parfait. Ça, c'est une chose. Vous avez dit aussi c'est un vaccin qui était très, très apparent. C'est un virus qui était très, très apparent. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Bien, chez le patient. Je veux dire, les gens avaient des stigmas cutanés, là,
Des cloches, la variole.
Il développait les cloches et donc c'était tellement notoire que quand tu l'avais, tu ne pouvais pas t'en cacher, tout le monde savait que tu l'avais. Puis là, tu te dis, j'ai vraiment pas envie d'avoir ça, ça défigure tellement. Donc, il y avait vraiment aussi une vraie motivation à dire, ça, faut pas l'avoir. Donc, c'est sûr que ça, il y a quand même, tu sais, des mix qui font que les choses fonctionnent mieux.
Mais regardez, je vais vous poser la question, je sais qu'on est pas dans la science-fiction, mais dans la, appelons ça comme on veut, là. Si le vaccin, le virus, le coronavirus actuel, laissait des séquelles apparentes comme ça à tous ceux qui sont infectés, pensez-vous qu'il y aurait autant de gens qui auraient des réticences à se faire vacciner?
Poser la question, c'est y répondre. Je me dis que possiblement, en tout cas, je pense que ça inciterait les gens, oui, davantage. Parce que c'est clair, puis on l'a vu, hein, pour certaines personnes, ça demeure encore quelque chose de très hypothétique, la COVID-19. Ils n'ont pas vu de gens qui ont été malades, ils n'ont pas perdu personne aux mains de la COVID. Et donc, c'est quelque chose de théorique. Et tant que c'est théorique, c'est difficile de créer une vraie motivation pour créer le changement.
OK, tant qu'à reculer dans l'entrevue, on a parlé des pharmaceutiques. Les pharmaceutiques ont donné au monde des vaccins en des temps records. Ça a permis de limiter la propagation. Mais en même temps, ils ont les brevets. Ils veulent pas les partager. S'ils les partageaient avec d'autres compagnies qui pourraient fabriquer dans d'autres usines des vaccins, il y a plus de monde qui serait vacciné. C'est quoi la part de responsabilité de ces entreprises-là?
Bien, ils ont une part. C'est clair. Ils ont une part de responsabilité. Et cela dit, et là, c'est là que tout est dans la nuance, c'est que oui, libérer les brevets, c'est une chose et ça va nous aider, mais ça vient aussi avec autre chose, ça vient avec le transfert de technologie, des connaissances, le savoir-faire, et ça, ça prend un certain temps. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est lever les brevets, puis après ça, donner un incitatif aux compagnies pharmaceutiques de faire l'accompagnement pour le transfert des connaissances, qui prendrait, on nous dit, à peu près 6 à 9 mois. Qu'est-ce qu'on fait plutôt? C'est qu'on chicane pendant des mois. Là, ça va faire quasiment un an qu'on fait ça, chicaner, pour ne pas lever les brevets. Et si on avait fait ça au printemps 2020, bien, aujourd'hui, on serait déjà en train de penser à faire ces vaccins-là pour de vrai. Donc, on perd du temps précieux. Et la réalité, c'est quand on regarde l'avenir, c'est qu'on va avoir d'autres pandémies. Celle-ci n'est pas terminée. Et on va avoir besoin de d'autres centres névralgiques qui vont pouvoir produire des vaccins, pas seulement dans l'hémisphère nord, mais aussi dans l'hémisphère sud.
Merci d'avoir pris le temps, Dr. Liu.
Merci.
Bonne journée. Dr. Joël Liu, médecin au CHU Sainte-Justine, également rattaché à l'Université McGill, ancienne présidente de Médecins sans frontières, et évidemment, connaît très, très bien les virus. Elle était avec Médecins sans frontières en Afrique de l'Ouest pour combattre le virus de l'Ebola. On va parler de cette nouvelle qui était à la une de la presse ce matin. Et c'est des détails, disons, sur les demandes du groupe Baseball Montréal, piloté par l'homme d'affaires Stephen Bronfman. On demanderait au gouvernement du Québec une aide financière de quelques centaines de millions de dollars pour financer le projet de stade de baseball à Montréal. Je vous rappelle que pour l'instant, le stade n'est pas assuré d'être construit. Et s'il est construit, c'est pas sûr qu'il y aura une équipe. Et s'il y a une équipe, ben peut-être que ce sera une équipe à temps partiel. On en parle de tout ça avec Marois Risky, députée libérale de Saint-Laurent, fiscaliste et spécialiste des paradis fiscaux. Madame Risky, bonsoir.
Bonjour.
Bon, OK. Comment vous avez réagi en lisant votre presse ce matin?
Bien, c'est sûr que je n'entretiens pas beaucoup d'amitié envers la famille Bronfman puis leur fiducie. Et je tiens à m'expliquer pourquoi. Dans les années 90, il est arrivé le rapport du vérificateur général du Canada. Dans ce rapport, il ne nomme pas la famille Bronfman, mais il en est clairement question. Et il est question d'une décision anticipée que bénéficie cette fiducie qui aura permis de pouvoir ne pas payer plus de 700 millions de dollars. Et ça a été décrié par le vérificateur général du Canada à l'époque et par plusieurs autres députés. Tout le monde a demandé est-ce qu'on puisse faire la lumière. Et lorsque Radio-Canada, l'équipe d'enquête de Radio-Canada, ont confronté la famille Bronfman sur cette fiducie qui a eu droit à un traitement de faveur de la part de Revenu Canada pour ne pas payer d'impôts, jamais que la famille Bronfman a nié que c'était eux dont il est question dans le rapport du vérificateur. Or, moi, aujourd'hui, et surtout après avoir participé avec l'équipe d'enquête de Radio-Canada sur la fiducie qui est avec M. Bronfman et M. Colbert, le sénateur Colbert, qui n'est plus aujourd'hui, dans tout ça, là, toutes ces allégations-là, qui sont assez bien documentées de part et d'autre, il me semble qu'avant de venir nous demander de l'argent, qu'ils regardent dans leur propre cours tout l'argent qu'ils ont économisé sur le dos des contribuables.
OK. S'il ne s'agissait pas de la famille de Stephen Bronfman, s'il ne s'agissait pas de gens qui sont des gens d'affaires millionnaires, est-ce que vous seriez plus d'accord avec l'utilisation de fonds publics pour construire un stade de baseball?
Là, si j'enlève mon chapeau de fiscaliste, puis je vais plus d'une façon économique, je connais aucun endroit qu'un économiste est capable de me dire, sans rire, là, que financer un stade a été rentable pour les contribuables. C'est pas encore arrivé. Alors, quand j'aurai un seul économiste qui va me faire la démonstration que c'est rentable de mettre de l'argent des contribuables dans un stade, peut-être que j'ai changé d'idée. Mais en attendant, la démonstration n'a pas été faite.
OK, mais pourtant, ces groupes-là, là, à la grandeur de l'Amérique du Nord, produisent des études qui disent que, ben écoutez, si les gouvernements investissent, je mets le verbe « investir » entre guillemets, ils vont récupérer leur argent. Qu'est-ce qu'il faut penser de ces études-là?
Ben, qu'il m'en fasse la démonstration qu'un seul cas, un seul stade dans les dernières années. Il y en a eu plein de constructions de stades dernièrement ou d'aréna. Ben, faites-moi la démonstration, puis je suis prête à discuter. Mais cette démonstration n'a pas été faite. Et pire que ça, M. Lagacé, on ose nous dire que, en plus de ça, donnez-nous des subventions et des prêts qui vont être annulés. et vous allez vous rembourser avec des impôts futurs qui seront payés. Mais de quel impôt est-il question ici? Là? Est-ce qu'ils ont regardé la convention fiscale États-Unis pour s'assurer que, premièrement, qu'il y aura vraiment des impôts qui seront payés ici et non pas en Floride, compte tenu du fait que l'équipe va être à moitié du temps ici et à moitié ailleurs? Il me semble qu'à un moment donné, l'histoire de fiscalité à coût nul, si je peux me permettre de faire un cours 101 pour les nuls en fiscalité, là, ça n'existe pas. Si vous ne payez pas d'impôts, c'est parce que quelqu'un d'autre le paye à votre place.
OK. Là, je vais, en langage de baseball, là, je vais vous envoyer une balle courbe à l'intérieur du marbre. Vous me dites que vous êtes contre l'utilisation des fonds publics pour construire des stades. Vous êtes dans un parti qui, quand il était au gouvernement, a construit un stade à Québec. Vous en train de me dire que c'était pas une bonne idée?
Ben moi, personnellement, j'adhère pas à ça. Alors, moi, je comprends que ça a été fait par mon parti dans l'époque. Moi, personnellement, je n'adhère pas à ça. Puis, je vais pas commencer aujourd'hui à changer mon discours pour me plier à certaines affaires, ligne de parti, pas ligne de parti. Voici qui je suis. Puis, si les gens sont pas contents, mais vous savez quoi? Je retournerai être prof. Ça me dérange pas du tout. Puis, j'assume. Je suis juste tannée que les gens pensent qu'on peut remplir le monde puis que moi aussi, je vais commencer à changer mon discours. Je n'adhère pas à cette philosophie de financer des stades ou des arénas.
OK. À ma première question, Vous avez commencé à me parler là, de l'historique fiscal avec les paradis fiscaux de la famille Bronfman. Parfait. Si au sein de ce groupe-là, ce n'était pas des gens qui avaient utilisé des paradis fiscaux, est-ce que vous seriez plus d'accord?
Non plus, parce qu'on n'est pas capable de faire la démonstration si c'est rentable pour les contribuables. Si on me fait de façon raisonnable la démonstration qu'on y gagne au change, je suis parlable. Mais il n'y a pas de cas que ça a été gagnant. Puis il y a des économistes qui ont gagné des prix Nobel qui ont fait la démonstration du cas contraire. Est-ce que François Legault, M. Fitzgibbon puis Éric Girard sont meilleurs que des économistes qui ont gagné des prix Nobel?
Merci, Mme Risky.
Ça fait plaisir. Au revoir.
Patrick Lagacé en accéléré.
Dans les CHSLD, là, lors de la première vague au printemps 2020, il y a eu un avant et il y a eu un après Aaron. On le sait, là, Aaron, c'est fin mars 2020 que l'histoire est révélée par le journal The Gazette. Des dizaines de morts, ça frappe l'imaginaire parce que ces gens-là sont morts, abandonnés dans le fond. Bien souvent, on sait que les employés étaient soit malades ou qu'ils étaient tellement effrayés qu'ils ne rentraient plus au travail. Le gouvernement a toujours plaidé qu'avant Aaron, ben, il ignorait que ça allait mal à ce point-là dans les CHSLD du Québec en termes d'éclosion et aussi en termes de manque d'équipement. Mais aujourd'hui, Thomas Gerbet de Radio-Canada a sorti une nouvelle, ma foi, percutante au plus haut niveau du ministère de la Santé. On savait bien avant Aaron que les CHSLD du Québec étaient dans le trouble, étaient à risque et à la santé, on le savait parce que Annick Lavoie, qui est directrice générale de l'Association des établissements privés conventionnés, ça regroupe 59 CHSLD, ben, Mme Lavoie sonnait l'alarme depuis 2 semaines auprès des fonctionnaires. Mme Lavoie, bonjour.
Bonjour, M. Lagacé.
OK. Votre première communication avec le ministère de la Santé en mars 2020, ça remonte à quelle date et qu'est-ce que vous avez dit à qui?
Bien, en fait, la première communication, c'est lorsque on a eu l'appel du ministère pour nous aviser là, de la problématique là, de la COVID-19 et c'était le 12 mars.
OK, 12 mars. Là, le ministère de la Santé appelle et qu'est-ce qu'ils vous disent à ce moment-là?
Ben là, ils nous disent que il y a une pandémie, que c'est déclaré par l'OMS. L'OMS, exactement, et que on doit se préparer là à faire face à cette situation, qu'on doit avoir là les équipements de protection individuelle qu'on a besoin, qu'on doit tout mettre en œuvre là pour protéger nos personnes là, qu'on héberge.
Et là, ce qu'on vous dit dans cet appel téléphonique le 12 mars, et là on est 2 semaines avant Aaron, là, c'est que les CIS et les CIUS vont livrer l'équipement, c'est ça?
Exactement, parce que moi, ce que je mentionne à Mme Rosebush dans cet appel, c'est les établissements privés conventionnés, on a accès à des fournisseurs privés qui sont les mêmes fournisseurs que pour le ministère et on va passer par eux pour avoir les équipements, les solutés, les tublures, etc. Et elle dit, les CIS et les CIUS vont avoir l'obligation là, de vous fournir toute ces équipements-là parce qu'on a réquisitionné là, les inventaires.
OK. Ça, Mme Rosebush, c'est Nathalie Rosebush. Elle est sous-ministre à la Santé. C'est elle, votre interlocutrice.
Sous-ministre adjointe.
Sous-ministre adjointe. Et le 16 mars, 4 jours après l'appel téléphonique, là, vous la relancez puis vous lui dites, écoutez, on n'a pas d'équipement. Les CIS, les CIUS ne nous en donnent pas. Qu'est-ce qu'elle vous répond?
Si je me souviens bien, elle me répondait très rapidement. Hein. Si je me souviens bien, elle m'avait... Je suis en train de repasser le courriel. Alors, elle me répond qu'elle va faire le message que des travaux sont en cours là, concernant les différents équipements de protection individuelle, le nombre, le type. Alors, elle va me revenir là au terme des travaux qu'ils font. Là. J'imagine qu'ils ont passé à travers l'inventaire, voir qu'est-ce qu'ils avaient.
Là, les jours passent, OK? Puis je ramène les gens. Là le Québec tombe dans disons, toute la situation d'urgence de la pandémie, c'est tout nouveau. Les jours passent, puis vous recevez toujours pas là, les 59 CHSLD que vous représentez de masques, d'équipements de protection. Mais le 20 mars, le premier ministre Legault dit aux Québécois, écoutez, on a assez d'équipements. À court terme, il n'y a pas de besoin. Et il dit, je veux rassurer tout le monde. Comment vous réagissez quand, le 20 mars, vous voyez le PM dire ça?
La première réaction que j'ai, c'est de dire il y a quelqu'un qui l'a pas informé comme il faut. Il y a quelqu'un en quelque part sur la ligne du bas qui a pas fait monter le message comme quoi que effectivement sur le terrain, ce n'est pas la réalité. Peut-être qu'on a des inventaires dans les CIS et les CIUS, puis les quand ils ont fait le recensement, ils disent oui, on en a, puis c'est correct, mais ils ont oublié complètement là les partenaires avec qui ils devaient partager, puis nous on n'en avait pas là.
OK. Madame Lavoie, vous êtes habituée, vous, en tant que représentante là, d'un regroupement de CHSLD privé, à composer avec la machine de la santé. OK? C'est pas à vous que je vais expliquer que c'est un mammouth qui ne survit pas sur un dixaine. Est-ce que, dans toute cette saga-là, pour vous, est-ce que c'est un problème politique ou c'est un problème bureaucratique? C'est-tu le politique qui a merdé ou c'est le bureaucratique?
Écoutez, j'aurais plus tendance à penser que c'est justement le gros mammouth qui a pas réagi comme il faut. Là. Je penserais pas que ce soit le politique. Je pense vraiment que c'est la machine qui est pas capable de se tourner suffisamment rapidement. Là.
Non, mais c'est quand même pas banal parce que le 20 mars, là, il y a un sous-ministre adjoint qui vous dit, écoutez, c'est la crise, on n'a pas d'équipement. Mais en même temps, le premier ministre du Québec, le même jour, dit aux Québécois qu'on n'en manque pas d'équipement.
Oui, alors il y a une information en quelque part qui a pas circulé de façon correcte. Je suis convaincue que le premier ministre avait cette information-là, puis que lui, il était sûr que c'était la bonne information. Mais vraiment, quand on descendait plus bas, et le sous-ministre adjoint qui m'a répondu, ben c'était les inventaires là aussi qui se retrouvaient probablement dans les CIS et les CIUS là parce que. Entre le moment où on a réalisé que il y avait un début de manque d'équipement de protection individuelle, on en a utilisé beaucoup entre-temps parce que ça passait rapidement. Ouais. Là. T'sais, vous avez une paire de gants, vous avez des gants pour aller voir les résidents. Ben dans une journée de pandémie, là, c'est 8 paires de gants par résident, par quart de travail. Ça passe vite, là. Fait qu'il y en avait peut-être une quantité, mais ça passe très vite.
Ces gens-là qui sont décédés, pensez-vous qu'ils seraient décédés en aussi grand nombre dans nos CHSLD dans la première vague si vous aviez au moins eu des masques pour le personnel?
C'est difficile de répondre parce que ces gens-là, clairement, avaient une situation médicale précaire. Donc, un moindre petit effet a un effet de catastrophe sur eux. C'est sûr et certain que si on avait eu les équipements de protection individuelle, à tout le moins, on aurait pu protéger les employés, les travailleurs de la santé, qui, eux, n'auraient probablement pas transmis le virus à tous les gens qui étaient hébergés. Donc, c'est difficile de mettre le doigt sur une seule cause.
Oui. Allô?
Oui. Okay. Oui, tout à fait.
OK, vous aviez fini, d'accord.
Oui, c'est ça. C'est difficile de mettre sur... sur le doigt sur une seule et unique cause. Là.
Dernière question, Annick Lavoie. Madame McCann, l'ancienne ministre de la Santé, elle est allée chez la coroner Kamel et elle a dit que, écoutez, le ministère de la Santé a envoyé une note à tout le réseau, notamment pour dire que les CHSLD devraient se préparer. Cette affirmation-là, elle est contestée. On peut même dire qu'elle est fausse. Vous, quand vous avez entendu Mme McCann dire ça, comment vous avez réagi?
Mais premièrement, elle le mentionnait qu'elle avait annoncé ça dans le comité de gestion du réseau. Et malheureusement, l'association ne siège pas à ce comité-là. C'est quelque chose qu'on avait demandé depuis bien avant la pandémie, qu'on a demandé dans la pandémie, puis qu'on demande encore aujourd'hui. C'est sûr et certain que si on avait été présent, ben, ne serait-ce que le fait que on travaillait très fort pour les hôpitaux, pour s'assurer que tout était prêt pour eux. Ben c'est sûr que si on avait été présent, on aurait levé la main puis on aurait dit c'est beau, oui les hôpitaux c'est important, on le voit dans le monde, mais n'oubliez surtout pas les CHSLD s'il vous plaît. Et là on aurait été en mesure de les protéger là.
Et vous étiez là pour lever le flag comme on dit. Merci beaucoup Madame Lavoie.
Ça m'a fait plaisir, M. Lagacé. Bonne journée.
Salut, vous aussi. C'était Annick Lavoie, directrice générale de l'Association des établissements privés conventionnés. Ça représente 59 CHSLD privés.
Patrick Lagacé, en accéléré.
C'est 23.